Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Je voudrais proposer un nouveau format, en fait, que je vais appeler anecdote de spectatrice ou anecdote de régisseuse. Mais ça va être un premier épisode introductif et ensuite des premières anecdotes que je vais donner. Je me suis aperçue de plusieurs choses depuis que j'ai créé ce podcast. D'un, j'ai réécouté ma bande-annonce. Et je l'ai écrite en décembre et j'ai l'impression de déjà pu être totalement en accord avec ce que je dis dedans. Mais j'aimerais la laisser comme ça. Et j'ai l'impression aussi que mon podcast prend une tournure dont je ne m'attendais pas forcément au départ. Au départ, quand je l'ai créé, je pensais que mon concept, ce serait qu'il n'y aurait pas de concept, justement. J'ai créé le podcast avec un titre, donc La joie de Camille, plutôt vague. Comme ça, ça me permet de pouvoir traiter n'importe quel sujet. Dans ma bande-annonce, je dis que je vais lire des textes que j'ai écrits. Et en fait, dans mes tiroirs, j'avais beaucoup de textes, mais de choses sur ma vie, des anecdotes intimes sur moi, des choses qui me sont arrivées. Et c'est des épisodes que, pour le moment, je me sens pas prête à faire, de lire ces textes, finalement, alors qu'à la base, c'était ce que j'avais prévu de faire. Depuis que j'ai créé le podcast, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de textes que j'ai écrits depuis. Et en fait, j'ai dressé une liste de toutes mes idées, de tous les projets que j'ai envie de faire avec ce podcast. Et il y a quelque chose qui est en commun avec toutes ces nouvelles idées. Je m'y attendais pas forcément, alors qu'en fait, ça coule de source au final. C'est la culture. Il y a toujours quelque chose... que j'ai envie de raconter, qui soit en lien avec un artiste, avec un spectacle que j'ai vu. Et en fait, j'ai l'impression que mon podcast, il prend un peu cette tournure de la culture qui est hyper présente dans ma vie. Et j'ai envie de partager plutôt des anecdotes autour de ça. Et j'ai eu l'idée donc de ce nouveau format anecdote de spectatrice pour plonger un peu dans les coulisses des salles de spectacle vivant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit dans ces moments-là où on réserve une soirée pour un artiste qu'on a envie de voir ou un spectacle. Aussi également les anecdotes et les coulisses de ce qui se passe dans les théâtres, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit sûrement pour me protéger dans la bande-annonce, mais dans la vie, je suis technicienne dans le spectacle vivant. Et il y a quelques textes que j'ai écrits de petites choses qui me sont arrivées en coulisses que j'aimerais raconter. Seule ou accompagnée d'ailleurs, il y a des choses que j'aimerais bien raconter avec des artistes que j'ai pu rencontrer ou d'autres personnes. Et voilà, et donc j'ai vraiment l'impression que la tournure du podcast va être autour de raconter la culture par le biais des gens qui sont allés voir du spectacle ou par les artistes qui travaillent dans ce milieu-là. Sur l'Instagram, j'ai refait un post pour un peu me présenter parce que je me suis rendu compte que dans ma bande-annonce, je parlais de moi, mais de celle que j'étais dans le passé et de celle que je suis en train de devenir, mais en restant très floue en fait sur qui j'étais. Je vais en profiter de ce nouveau format pour me représenter à nouveau un peu plus clairement. Donc effectivement, j'ai bientôt 30 ans, je vis à la campagne avec des animaux, loin des tumultes de la ville. Je rénove une maison avec mon conjoint, qui prend beaucoup beaucoup de place dans notre vie, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast. C'était aussi pour me plonger dans autre chose et sortir un peu de ces travaux qui nous prennent beaucoup de place dans notre vie. Et je n'avais pas précisé mon métier, voilà, j'en parlais très vaguement, mais je travaille côté technique, je fais partie des équipes techniques dans de nombreux théâtres. J'ai le statut intermittent. Et ce sera l'objet d'ailleurs du prochain épisode pour ceux que ça intéresseront. Et aussi une nouvelle chose par rapport au podcast, c'est que j'essaye pour la première fois de parler librement sans lire le texte que j'ai écrit, même si je l'ai quand même sous les yeux pour pouvoir suivre le fil de ce que j'ai envie de vous dire dans cet épisode. Ce premier épisode du format anecdote de spectatrice, je l'ai déjà enregistré, mais le fait de lire mon texte, ça ne m'a pas plu parce que je vais raconter des anecdotes plutôt intimes et fortes. Ça ne me plaisait pas que je sois complètement happée en fait par le fait de lire, d'essayer de ne pas buter sur les mots. Et pour moi, il n'y avait pas d'émotion qui se transmettait. Et en plus, c'est des histoires, voilà, vraiment des histoires de vie que je vais raconter. Donc, je trouvais que ça sortait un peu du contexte de lire et de mon écriture, où j'utilise des mots assez élaborés, des tournures de phrases qui ne sont pas naturelles. Donc, je vais essayer de faire cet épisode tout simplement en parlant librement. Et ça, c'est assez nouveau pour moi parce que dans mes premiers épisodes, j'aimais beaucoup me cacher derrière le texte que j'avais écrit au préalable et de juste le lire, de juste délivrer et qu'il y a un cadre hyper carré. Et voilà, et de ne pas laisser place à l'improvisation en fait. Et là, je vais le faire, je vais essayer parce que j'ai l'impression que ça s'y prête beaucoup mieux. Alors voilà, aujourd'hui, je vais proposer ce nouveau format. Je souhaitais que ce soit un épisode introductif. Et à la fois que je commence dès le premier épisode à raconter des anecdotes. Et pour ça, je me suis dit que je devais trouver un thème suffisamment puissant, suffisamment fort, parce que j'ai fait une liste de toutes les anecdotes que j'aimerais bien raconter, par thème en fait. Et je me suis dit, pour le premier épisode, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui fasse sens. Alors je me suis dit, je vais raconter les concerts et les souvenirs de concerts qui me sont le plus chers, ou en tout cas les souvenirs les plus puissants. Alors je me suis dit, je ferme mes yeux, je réfléchis, je me pose cette question, je laisse mes pensées faire, et je prends les deux premiers souvenirs qui me viennent en premier. C'est bon. Je sais de quoi je vais parler. J'ai pensé en tout premier à un concert de Renan Luce, en 2009, et tout de suite après, j'ai pensé à un concert de Bryan Adams en 2012. Et ce sont des dates qui sont très importantes parce que ma vie, elle a basculé entre ces deux concerts. Mais je vais raconter aussi une troisième anecdote qui est très vite venue dans mes pensées quand j'ai réfléchi à quels étaient mes souvenirs les plus puissants. Donc voilà, je vais vous raconter ces trois anecdotes. Au tout début, avant même d'écrire un texte sur ces anecdotes. Voilà, en réfléchissant comme ça, je me suis dit que j'aurais pas forcément énormément de choses à dire finalement, et que ce serait sûrement un format d'anecdotes qui serait un format d'épisode court. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte, en réunissant ces deux souvenirs-là, que c'est pas seulement les concerts en eux-mêmes qui sont des souvenirs marquants, mais surtout avec qui j'y étais, et il y a quelque chose qui m'a frappée. En fait, en réunissant ces deux souvenirs, je me suis rendu compte que le concert de Renan Luce, j'y suis allée avec ma mère, et le concert de Bryan Adams, j'y suis allée avec mon père. Et c'est tout. C'est vraiment des moments que j'ai vécu avec ma mère seule et avec mon père seul. Il n'y avait personne d'autre avec moi à ces moments-là de ma vie. Ça m'a un peu frappée de me rendre compte que mes deux plus puissants souvenirs de concert, ce sont avec mes parents. Et en fait, ça, je l'aurais pas imaginé. Donc déjà, de me rendre compte de ça, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit qu'en fait, tout simplement, je devais raconter la genèse de mon amour du spectacle, parce que ce sont mes parents qui m'ont transmis cet amour-là. C'est eux qui m'ont transmis le besoin d'écouter de la musique vraiment régulièrement, le plaisir de danser, de chanter. C'est eux qui m'ont transmis le fait de s'émouvoir à chaque fois d'une chanson, même si on a pu l'écouter 1000 fois avant. Ils m'ont transmis aussi la nécessité d'aller voir des artistes sur scène. Et aujourd'hui, je vois bien que je reproduis ce besoin d'avoir toujours dans mon agenda une future date de spectacle ou de concert. Et voilà, je sais que bientôt, j'aurai un nouveau concert à aller voir. Et ça, c'est quelque chose que je pense que j'en ai besoin dans ma vie. Et d'ailleurs, il y a un moment, il y a une période de ma vie où j'ai arrêté d'aller voir des concerts et des spectacles, et où je me suis sentie vraiment moins bien. Et là, en ce moment, je reprends un peu je reprends en main mon agenda pour trouver des moments pour ça, et pour consacrer des soirées pour ça, et ça me fait un bien fou. Et voilà, je me rends compte que c'est vraiment en fait un besoin pour moi d'aller voir des artistes en live, d'aller les voir dans les salles ou dans des festivals. Depuis toute petite, mes parents, ils m'ont emmenée avec ma sœur voir des concerts. C'était dans les années 90-2000. Et je me souviens de mes premiers concerts. C'était des concerts en extérieur. Alors, je ne sais plus si c'était en festival ou si c'était des concerts gratuits dans les villes ou je sais plus. Mais je me souviens beaucoup de cette attente avant que ça démarre. Je savais même pas ce qu'on attendait en fait, mais voilà, on était tous là avec des gens qu'on ne connaît pas autour de nous, à attendre quelque chose. Et je sentais que tout le monde savait qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel qui allait se passer bientôt et qu'il y avait une attente, en tout cas. Je me souviens qu'on s'asseyait tous dans l'herbe, même les adultes, et qu'on mangeait nos chips et nos sandwichs, qu'on discutait. Et je me souviens aussi, une fois les concerts commencés, moi je devais être haute comme trois pommes, et je me souviens être entourée d'un mur de jeans, de toutes les jambes des personnes qui étaient autour de moi, et moi je voyais rien du tout. Et ensuite mon père me prenait sur ses épaules, et c'est là que je découvrais ce qu'il y avait à voir, la scène, les jeux de lumière et les gens sur scène qui jouent de la musique. Et donc j'ai plutôt des souvenirs visuels, mais pas vraiment de ce que j'avais pu entendre à ce moment-là. Même si je me souviens très bien les artistes et les groupes que j'avais vus pendant ces premiers concerts. Et en fait, je crois que je devais être plutôt fascinée par la foule, par tous les visages rivés dans la même direction, les gens qui discutent entre eux et qui chantent hyper fort leurs chansons préférées, et aussi par les applaudissements. Parce qu'aujourd'hui, je suis très sensible encore aux réactions du public. Et je peux pleurer pour quelqu'un qui hurle un « bravo !» pendant un silence ou pendant une salve d'applaudissements au milieu d'un morceau. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup encore aujourd'hui et qui m'émeut vraiment les réactions du public. Et je me souviens de mes premiers concerts, c'était Triane et Soldat Louis.
Fallait bien que tu saches maintenant que je t'ai dans le cœur mille fois par heure et que ça rend triste ton grand con-fils.
J'ai souvent en mémoire l'image du chanteur de Triane. Il portait une sorte de blouson transparent et en plastique. Ça devait pas du tout être confortable. Et en fait, j'ai en mémoire la transpiration du chanteur qui coulait de ses manches. Et nous, on devait être au premier rang. On était côté court. Donc dans le jargon du spectacle, ça veut dire à droite quand on regarde vers la scène. Et on devait être collé aux barrières et certainement collé aux enceintes. Et le chanteur, il était venu vers ma cousine et il lui avait fait chanter dans le micro. Donc ça, j'ai le souvenir de ça. Et de ce costume qu'il portait, quoi. Et en écrivant ce texte, j'ai tapé dans ma barre de recherche internet « Triane, costume plastique transparent ». Histoire de voir si mon souvenir, il est plausible... Ou si, ouais, s'il reste des choses de ça. Et en fait, effectivement, j'étais estomaquée. Il a bien porté des costumes transparents en plastique. Et sur plusieurs tournées en plus. Et vraiment, mon souvenir, en fait, il est encore hyper présent et hyper précis de voir encore le filet d'eau couler de ses manches. C'est certainement le souvenir le plus ancien que je possède encore, en termes de concert en tout cas. Et j'ai un autre souvenir, j'ai l'impression d'avoir vu Alain Souchon, peut-être dans un zénith. Et j'ai un souvenir d'être placé dans les gradins, mais dans le premier rang, où en fait devant nous il y a plusieurs mètres, c'est un passage pour le public, pour que quand ils rentrent, qu'ils soient dirigés vers telle ou telle place. Donc j'ai le souvenir d'être là, et de sûrement me balader à droite à gauche, et de pas vraiment écouter le concert. Et j'ai l'impression d'avoir en mémoire Souchon tout seul sur scène. Alors peut-être que c'était pour un titre tout seul à la guitare ou une dernière chanson pendant un rappel, ou alors peut-être que c'était une tournée acoustique où il était tout seul, je sais plus. mais j'ai l'impression de le voir seul et ensuite de le voir quitter la scène côté court aussi. Mais voilà, c'est un souvenir que je suis pas sûre qu'il existe vraiment, enfin je suis pas sûre que ce moment existait vraiment. Mais voilà, je pense avoir vu Alain Souchon en live. Et Alain Souchon, il a vraiment fait partie de mon éducation musicale. On avait plusieurs CD à la maison, et ceux de Souchon, ils tournaient vraiment très régulièrement, parce que c'était l'idole de ma mère.
Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir.
Dans les poulaillers d'Acajou. Quand c'était pas Souchon, c'était le groupe Ange que mon père adore et qu'on écoutait à fond. Et voilà, il y avait aussi du Woolsey, du Mylène Farmer, beaucoup de chansons à texte. Ce qui a certainement nourri mon amour pour les mots et la chanson française. En repensant à tout ça, je me rends compte que tout part de là, en fait. Et bien plus tard, adolescente, j'ai commencé à faire mes propres découvertes musicales et à aimer d'un amour profond la musique et les artistes. Notamment, la Star Academy m'a beaucoup apporté en culture musicale. Il y a même parfois encore aujourd'hui des chansons que je connais par cœur et que j'entends pour la première fois par le chanteur d'origine. J'ose même dire qu'il y a des versions des académiciens que je préfère aux originaux. Par exemple, j'ai découvert J'envoie valser par Olivia Ruiz avant de l'entendre par Zazie. Et Olivia Ruiz, sur cette chanson, elle me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute, alors même que la chanson de base originale par Zazie, elle est déjà d'une grande puissance et d'une force. Et le texte, je le trouve fabuleux. Mais Olivia, elle me touche certainement encore plus parce que j'ai découvert ce texte à travers sa sensibilité à elle et à travers sa voix.
J'en vois des qui donnent des bijoux dans le cou, c'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Et ça, ça vaut de l'or.
Je pense aussi à une version de Tous les bateaux, tous les oiseaux de Sophia Issaidi. J'ai jamais écouté vraiment la chanson originale, en fait. Donc là, j'ai découvert que c'était une chanson de Michel Polnareff. Et c'est vraiment un chanteur qui a pas du tout fait partie de mon éducation musicale. Et cette chanson, je préfère 100 fois l'entendre par une voix féminine et par la chaleur de Sophia Issaidi. Parce que voilà, je l'ai découverte à travers ce prisme, en fait, et pas par le chanteur d'origine.
Moi, je t'ai rêvé. Cette rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux.
Et suite à la Star Academy, c'est l'ouragan qu'a provoqué Le Roi Soleil, le spectacle musical dans ma vie, dont je parle dans le précédent épisode. Le Roi Soleil, ça a vraiment été le départ d'une grande découverte de nombreux artistes par la suite. Parce que avant, quand j'étais plus petite, j'écoutais sans vraiment m'intéresser, je connaissais jamais les noms des artistes. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec Le Roi Soleil, j'ai certainement pris conscience qu'il y avait des noms et des artistes derrière mes chansons préférées, quoi. Et en grandissant aussi, j'ai beaucoup réécouté les chansons des Disney. Je les ai pas forcément revues, mais alors les chansons, je les ai réécoutées. Et j'ai un souvenir très fort d'être allée au cinéma avec ma mère voir le dessin animé Spirit, les talons des plaines. Et c'est un film qui nous avait bouleversés, et je me souviens de ma mère dire qu'elle avait adoré la voix du chanteur, des chansons du film, quoi. Et elle n'arrivait pas à remettre le doigt sur qui c'était. Et moi, à la sortie, j'avais 9 ans, et de mémoire, c'était le début de l'arrivée d'Internet dans les foyers. Très vite après, j'ai eu la cassette vidéo, et vraiment, le film, je le regardais en boucle et en boucle. J'ai même l'impression d'avoir le souvenir de, des fois, les mercredis après-midi, le regarder, rembobiner la cassette et le remettre. Très vite, en fait, j'ai fini par connaître par cœur toutes les chansons. Et je me vois encore me balader à vélo et chanter les chansons, m'imaginer être sur le dos de Spirit. Et je ne sais plus si c'est en lisant le générique avec ma mère pour trouver qui était le chanteur ou mes recherches sur Internet. Mais en tout cas, ça y est, on avait trouvé qui c'était. Et le chanteur des chansons de Spirit, c'est Bryan Adams.
Je sais la route est longue, mais même au bout du monde, je te trouverai. Je reviendrai, je suivrai la rivière, l'éclat des étoiles, je prendrai. Maintenant j'y crois, tous les chemins vont vers toi. Et lorsque tombe la nuit, ton cœur qui m'épargne, le sait, j'y arriverai. On ne m'emprisonnera jamais. Non, ne jugez pas vous qui ne me connaissez.
En grandissant, toujours en tête cette phrase en fait de ma mère qui me dit « Ah mais j'ai adoré les chansons du film, j'ai adoré le chanteur », je me souviens être allée sur Internet pour écouter Bryan Adams, parce que voilà, j'écoutais les chansons en boucle, et je sais pas, j'avais dû tomber au hasard sur ses chansons à lui, son répertoire solo en fait. Et la toute première chanson que j'ai écoutée de Bryan Adams, c'est « Summer of 69 ». Et encore aujourd'hui, même après m'être nourrie de toute sa discographie, ça reste ma chanson préférée. Elle me fait à chaque fois un effet sans pareil, en fait. Le même effet que le jour où je l'ai entendue pour la première fois. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Bryan. Et en fait, je suis devenue fan de cet artiste. Mais voilà, j'avais 10 ans, quoi. Et c'est un artiste pas du tout de ma génération. Et il m'a fascinée et me fascine toujours. Et j'ai bien envie de croire que c'est grâce à ma mère que j'ai cet amour pour cet artiste. À la même période que Le Roi Soleil, j'ai eu un amour fulgurant pour le premier album de Renan Luce, Repenti. Voilà, on va arriver à la première anecdote, celle du concert de Renan Luce, et le fait que j'y sois allée avec ma mère. J'avais un casque pour écouter ma musique. J'aimais beaucoup la sensation du casque, de quitter le monde et de rentrer dans une bulle quand on écoute de la musique au casque. Et en fait, ça m'arrivait d'appeler ma mère pour qu'elle monte dans ma chambre pour qu'elle écoute une chanson au casque quand j'en découvrais une qui me transportait et qui était... où c'était vraiment un gros kiff de l'entendre au casque. Et je me souviens lui avoir fait écouter « Les sans-papiers » du spectacle Notre-Dame de Paris. Et voilà, ma mère, elle s'était allongée sur mon lit, elle avait écouté la chanson les yeux fermés. Et je me souviens, je crois que c'était pas le même jour, l'avoir fait revenir dans ma chambre pour qu'elle écoute une chanson de Renan Luce, de cet album, Repenti. Mais je sais plus forcément quelle chanson c'était. Mais en tout cas, je me souviens qu'en fait, elle avait pas écouté que cette chanson, elle était restée pour écouter tout le reste de l'album au final. Et voilà, et elle avait écouté, pareil, allongée sur le lit, les yeux fermés, hyper attentive à ce qu'elle écoutait. Et voilà, je me souviens pas forcément de ce que ma mère avait pu me dire en débrief après cette expérience, voilà, d'écoute au casque. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce souvenir d'être hyper heureuse de lui avoir partagé ça, quoi.
Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Moi j'aimais le vent se perdant dans les feuilles, le murmure de la sève qui me donnait la vie.
Et arrive enfin ce fameux jour de 2009, le 14 novembre, où nous nous sommes rendus, ma mère et moi, au Normandie de Saint-Lô pour aller voir Renan Luce. Nous étions assez bien placés, plutôt devant, et plutôt côté jardin. Alors dans le jargon, cette fois, c'est à gauche de la scène. Lorsqu'on est en face de la scène, c'est à gauche. Et voilà, c'était une soirée où il y avait 3 concerts. Au début, c'était Yannick Duhamel qui ouvrait le bal, et s'en suivait le groupe Jill is Lucky, et je peux déjà dire que j'en parlerai de ce groupe dans un autre épisode du format anecdote de spectatrice. Et arrive enfin le moment du concert de Renan Luce. Et en fait, je ne sais pas vraiment trouver les mots pour expliquer la puissance du souvenir de ce concert. Je me souviens en fait que j'avais eu la sensation que le public était en osmose. Et j'ai jamais vraiment revécu ça d'une manière aussi intense en fait. J'avais la sensation qu'il y avait un respect et un amour énorme pour Renan Luce et pour ses textes, pour vraiment ce que ses textes disent. C'était un moment où il n'y avait pas de bousculade, personne n'était bourré, relou, alors qu'on peut boire voilà, dans cette salle. Et puis la soirée, elle avait duré un temps quand même, parce que là, on était quand même au 3e concert. Et en fait, je sais pas comment le dire mieux, mais ça m'a profondément marqué cette impression en fait de faire un avec le public, voilà, avec une masse de personnes que je ne connais pas, mais pour autant, on est tous venus pour voir cet artiste-là, en fait, et on est tous ensemble pour vivre ce moment-là, quoi.
Ça fait 20 ans que je me cache, et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti. J'aurais bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs, on remplit mon verre et on rigole, on me salit quand je raconte les tours de verre, ma vie à l'Italie. Jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même, en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine. J'ai aidé quelques connaissances dans leur querelle de voisinage. Deux, trois corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. Repentir, j'ai trahi. Ma mafioso jusqu'au bout des ongles. Je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Et mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes. Je rencontrais leur professeur et prélevais quelques quenottes. Mais aujourd'hui, je suis trop vieux, je m'occupe de mes hortensias. Et c'est étrange, comme ils poussent mieux, qu'ai-je bien pu donc enterrer là.
Réfléchissant à ce souvenir, à pourquoi c'est celui-là qui me vient en premier, pourquoi c'est celui-là le plus puissant, je pense en fait que c'est au-delà du concert qui était vraiment exceptionnel, où j'en garde un souvenir inoubliable, il y avait aussi la présence de ma mère. Et ça, je pense que ça compte beaucoup pour le fait que ça reste aujourd'hui un souvenir hyper fort. Parce que ma mère, elle avait beaucoup de problèmes. Et en fait, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, on puisse toutes les deux aller voir un concert. Et c'est aussi le fait qu'on fasse ça ensemble, toutes les deux, d'aller voir un artiste qu'on aime toutes les deux. C'était ça, en fait, qui était énorme. Enfin, qui l'est aujourd'hui pour moi, en fait. Et même si je le conscientise que maintenant, je pense vraiment que c'est pour ça que ce souvenir, il est dingue, quoi. Et je me souviens qu'à un moment du concert, il y avait des personnes qui étaient parties. Et comme je disais, il n'y avait pas de bousculade, donc l'espace qu'avaient laissé ces personnes devant moi, il était resté comme ça. Il n'y avait personne qui s'était, qui avait accouru pour se rapprocher de la scène. Et moi, du coup, j'en avais profité pour m'approcher un peu plus, pour faire de meilleures photos, parce que j'adore faire des photos de concert. Et ma mère, elle était restée là où on était placé à la base, quoi. Et je me souviens être déchirée par l'envie de rester à côté d'elle pour vivre ce moment toutes les deux. Et l'envie aussi de prendre mes photos. J'avais choisi les photos. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce concert. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas, une harmonie qui me reste encore au cœur aujourd'hui, même après en avoir vu et revu plein des concerts. Mais celui-ci de Renan Luce, la première tournée de son premier album, il y avait vraiment quelque chose d'émouvant. On s'est tous sentis bien, là, dans cet espace, les uns proches des autres, à écouter des chansons qu'on adore. C'était un nouveau chanteur à texte. Ouais, il y avait un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Et il n'y a pas de mots pour le dire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a une autre anecdote qui découle en fait de ce souvenir avec ma mère également. Et c'est un moment très fort, mais au-delà du concert en fait. C'était une rencontre avec un artiste. Dans le premier album d'Emmanuel Moir, Là où je pars, il y a un duo à la fin de l'album. Et en fait, c'est une reprise. Et c'est la chanson Merci, une chanson de Claire Joseph, qu'il a repris en duo avec Claire Joseph elle-même. Et c'est une chanson qui m'a apporté beaucoup d'aide Au collège notamment, j'avais subi, alors j'ai pas de souvenir vraiment précis, si c'était quelques jours ou quelques semaines, ça je saurais pas dire, mais j'avais subi une sorte de harcèlement par des filles, voilà, qui m'embêtaient. Et la chanson, elle dit « Merci encore d'avoir eu tous les torts, merci encore, la rage me rend plus fort ». Et ça, ça m'avait beaucoup aidé à affronter les obstacles voilà, de la vie et en fait à puiser dans ces événements-là qui sont tristes et qui te mettent en colère, de puiser plutôt du positif.
Merci encore d'avoir eu tous les torts. Merci. Mon honneur oublié.
Je donne aussi le temps passé à me défendre.
Quant à l'amour, je sais très bien à qui le rendre.
Merci encore.
Et ça, ça m'avait beaucoup aidé, cette chanson. Et la voix de Claire m'avait beaucoup touchée, donc j'avais écouté ce qu'elle faisait en solo. Et c'est alors que j'ai découvert tout son répertoire et sa voix qui est d'une force et d'une émotion pure comme rarement j'ai entendu. Et son album La vie ne suffit pas, je ne peux plus l'écouter aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais il me rappelle ma mère. Ça me rappelle une époque de ma vie qui était merveilleuse et où tout allait bien. Et ça me renvoie à cette période et en fait je n'arrive plus à entendre cet album. Et ça m'apporte une émotion trop grande, en fait. Il faudrait que j'essaie de le réécouter ou alors d'écouter des chansons toutes seules, en fait, sans suivre la tracklist de son album, en fait. Peut-être que j'y arriverai mieux aujourd'hui. Mais il y avait notamment une chanson qui s'appelle « Avant moi » et qui me faisait frissonner. Et je sais pas, je m'étais toujours dit, j'ai l'impression, que j'aurais quelqu'un dans ma vie plus tard. Parce que moi, là, je parle de... Quand j'ai découvert La vie ne suffit pas, l'album de Claire Joseph, j'avais... Je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Et ouais, j'étais certaine que j'aurais quelqu'un dans ma vie, à un moment donné, sur une période, que voilà, que je serais amoureuse de quelqu'un et que ce sera réciproque. Et au fond de moi, j'avais ça. Et quand j'écoutais la chanson Avant moi, j'étais déjà dans l'émotion de me dire qu'un jour... j'aurais l'envie d'avoir connu la personne que j'aime bien plus tôt. Et ça me mettait dans une émotion très très grande. La chanson, elle dit « À te voir rire sur celle-là », elle parle d'une photo, « Je voudrais y apparaître avec toi, n'avoir qu'une vie, plus celle-là, j'aurais voulu te connaître avant moi. » Voilà, rien que de lire les paroles, ça m'émeut, je sais pas pourquoi. Je l'entends en plus dans ma tête en lisant les paroles. Et aujourd'hui, en fait, cette personne, elle est bien auprès de moi. J'ai bien rencontré quelqu'un qui partage ma vie. Et en fait, voilà, cette prédiction, elle s'est exaucée. Et en relisant les paroles de cette chanson, voilà, pour écrire ce texte, il y a un mot qui me renvoie directement à lui. Un mot lambda de la vie... mais qui me fait toujours penser à lui, et ce mot, il est dans cette chanson. Et c'est un mot qui me fait référence à lui seul, et qui est rarement utilisé dans des chansons. C'est pas aimer, ou... Voilà, c'est un mot. Et du coup, c'est assez mystique. Enfin, je vois certainement des liens où j'ai envie d'en voir, mais comme quoi, bah, cette chanson, elle m'a profondément émue il y a 15 ans de ça. Avant même de connaître ce qui m'arriverait, là, dans le futur, je savais pas, moi, ce qu'allait m'arriver. Et aujourd'hui, en relisant les paroles, elle me renvoie encore à moi, comme si elle avait été écrite à ma place. Enfin, et pas au même endroit, mais pourtant avec la même émotion. Enfin voilà, j'ai encore l'impression aujourd'hui qu'elle a été écrite pour moi, ou par moi presque, dans une autre vie, ou je sais pas.
Je regarde là sur ton lit de petit garçon des photos qui ne portent pas mon nom. T'avais quelle voix déguisée en chef indien à Noël en 81. C'est vraiment toi avec tous ces cheveux longs, maillot rouge au cours de natation. J'aime la couleur de tes yeux en noir et blanc. Je partage tes rêves d'adolescent. À te voir rire sur ces larmes, je voudrais y apparaître avec toi. N'avoir qu'une vie sur ces larmes, j'aurais voulu te connaître avant moi.
Mais voilà, en tout cas, c'est un album, La vie ne suffit pas, qui m'avait énormément plu et que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Et Claire Joseph, c'est une artiste qui a été très importante pour moi, sa gentillesse et surtout ses textes. Et avec ma mère, nous sommes allés un jour d'été à Lyon-sur-Mer, c'était en 2009 aussi, et nous sommes allés voir Sky. Et Sky, c'est une chanteuse que j'ai découvert grâce à Claire Joseph, justement, et que j'aime aussi éperdument. Et c'était un concert où je savais qu'il y aurait Claire Joseph. Claire Joseph, elle faisait les chœurs et la guitare, et il y avait aussi Bézo, un artiste. Et eux deux, en fait, ils faisaient la musique, et Sky, elle était là pour chanter ses chansons à elle. Et c'était un concert sur une place gratuite. Et moi, ça me semblait incroyable de voir des artistes aussi importants pour moi, gratuitement, là, librement, dehors. On avait fait une bonne heure de route pour s'y rendre avec ma mère, et quand on est arrivé, il n'y avait personne, alors on a eu peur de s'être trompé de jour ou d'avoir lu des fausses informations sur Internet. Mais petit à petit, les gens ils sont arrivés. Sky, Claire et Bézo sont rentrés sur scène, ils ont commencé le concert. Et il y a même eu un peu de pluie, mais tout le monde est resté pour assister à ce concert. J'ai dû découvrir un peu mieux certainement le répertoire de Sky. Mais ce qui m'a marqué, ça a été une reprise de Paul Naref, justement. J'en parlais un peu avant. Elle a repris le bal de Laz. Et cette chanson m'a transportée par Sky. Et d'ailleurs, je l'ai réutilisée dans des cours de théâtre plus tard. Voilà, j'en parle aussi dans un autre épisode. Les cours que j'avais en art du spectacle. Et où on devait chanter des chansons. Et je me souviens avoir chanté le bal de Laz. C'est un souvenir très très fort. Et j'ai chanté la version de Sky. Pas la version de Paul Naref. Et je me souviens aussi d'une autre prise qu'elle avait faite, Bidonville, de Claude Nougaro. Et c'est une chanson qu'elle a enregistrée, d'ailleurs, dans son album All My Tears. Le concert, c'était un superbe souvenir, mais le moment le plus puissant dont je voudrais partager dans cet épisode, il a été après le concert. En fait, moi, je partageais au quotidien à ma mère mes passions pour mes artistes favoris de l'époque, donc c'était Christophe Maé, les chanteurs de comédie musicale, la chanteuse Rose, Renan Luce et bien sûr Claire Joseph. Et je suis allée à sa rencontre après le concert, malgré ma grande hésitation. Parce que, en fait, nous échangions sur Internet toutes les deux. Et je crois de mémoire qu'on s'était donné rendez-vous après le concert pour se rencontrer. Et de loin, elle m'avait reconnue. Et du coup, je pouvais plus m'échapper. Enfin, je devais aller lui parler, quoi. Et ça me faisait très très peur parce que j'en parle dans ma bande-annonce, j'étais vraiment une timide maladive quoi. Enfin, c'était vraiment je parlais très peu en fait moi dans ma voilà, dans à mon entourage, dans ma vie, je parle peu. Et voilà, je suis allée à la rencontre de Claire et on a discuté. Je me souviens, voilà, elle m'a beaucoup vannée, on a bien ri, on a fait des photos. Et voilà, ça a duré plusieurs minutes et c'était fini. Il est temps pour ma mère et moi de rentrer à la maison. Et en fait, c'était la première fois que je rencontrais une artiste que j'aimais à ce point, que j'admirais vraiment et avec qui je discutais et je riais presque à l'aise, quoi. Et ma mère, elle avait assisté à toute la scène, c'est elle qui avait pris les photos, elle était là avec moi, sa présence, elle m'apportait aussi un soutien, quoi, dans un moment aussi intimidant qu'une rencontre, et puis qu'une rencontre avec une artiste, quoi. Et dans la voiture, la voix tremblante, ma mère, elle me dit en fait qu'elle y croit pas que je sois allée parler à cette femme. Bah voilà, moi qui suis si timide et si réservée... Enfin, je sais plus vraiment ce qu'elle m'a dit, mais elle était hyper fière et super émue de m'avoir vu m'ouvrir à quelqu'un, de voir que ma timidité, elle pouvait s'envoler. Et voilà, que j'ai trouvé le courage d'aller la voir, quoi. Et c'est ce moment précis que je retiens, qui est hyper puissant, et voilà, qui m'émeut beaucoup encore. C'est le visage de ma mère et les larmes au bord de ses yeux.
Table, quand on enlève le sable de nos cheveux, les enfants montent aux arbres, les parents regardent comme au coin d'un feu. Dernier tour sur la plage, faites bon voyage, partez devant moi.
Je nous vois bien.
Et il y a une dernière anecdote aussi drôle qu'émouvante que j'aimerais bien raconter, celle du concert de Bryan Adams. Nous faisons un saut dans le temps puisque maintenant nous sommes en 2012, le 17 mars. Et ma mère n'est plus de ce monde, alors c'est mon père qui a pris le relais de m'accompagner voir des concerts. Et je suis touchée par ça en fait, sans lui dire. Je suis même surprise qu'il m'accompagne voir des artistes. Il m'emmenait voir des concerts, même d'artistes qu'il n'appréciait pas forcément. Et voilà, il me laissait aller dans la fosse avec mes copines. Je me rappelle être allée voir Icar, par exemple, deux fois dans l'année. Et mon père, il était OK, il m'emmenait. Et lui, il restait au fond de la salle, il me laissait profiter du moment. Il me laissait attendre les dédicaces pour faire des photos. Il était là, il était patient, hyper patient. Il m'emmène, il me fait plaisir, et voilà, parce que la vie, elle continue, elle. Alors il est là, il reste avec moi, et il me laisse jamais seule. Mais alors le concert de Bryan Adams, je suis vraiment très heureuse de le vivre avec lui, car voilà, Bryan, c'est un grand rocker, c'est un artiste de la génération de mes parents. Alors je me dis que mon père, il devrait autant s'amuser que moi, il devrait autant aimer aller voir cet artiste-là que moi, parce que lui, il est fan d'AC/DC, de Trust, de Police. Donc je suis super contente d'aller à ce concert avec mon père. Et on arrive à Paris en milieu d'après-midi, on se gare très facilement, et en fait on se met directement devant le Zénith, et on est genre une quinzaine de personnes. Et je sais pas, j'ai pas le souvenir, je sais pas comment j'avais fait pour convaincre mon père de venir aussitôt pour faire la queue. Certainement parce que de toute façon, voilà, on habitait loin de Paris et qu'on avait peur des bouchons et tout ça, donc on était parti avec grande marge pour être sûr d'arriver à temps, mais là on avait dû arriver, je sais pas, à 15-16 heures, alors que le concert il est à 20 heures. Donc je sais pas comment j'avais fait, mais en tout cas, on était là, et mon père, il m'a rien dit, quoi, ça l'a pas saoulé, enfin j'ai pas le souvenir que ça l'ait saoulé, quoi. Et en fait, on était en placement libre, alors... voilà, on mettait toutes les chances de notre côté, on arrive tôt et on attend, quoi. Alors, je me souviens que dans l'après-midi, on entendait au loin les balances, les musiciens, puis Bryan, voilà, qui faisait ses balances sur une seule et même chanson, je sais plus tout à fait laquelle, mais voilà, donc ça, déjà, c'était sympa. Enfin, ça commençait à nous mettre un peu dans l'ambiance, de dire, waouh, ouais, il est là, on va bientôt voir Bryan Adams en live, quoi. Et j'ai plus vraiment de souvenirs sur le reste de la journée. J'imagine que petit à petit, il y a eu moult foule qui a dû arriver. Et je me souviens que les vigiles, ils sont arrivés derrière les barrières pour nous ouvrir. Donc certainement une heure avant le début du spectacle. Et le public, forcément, il commence à être en nombre, en nombre, en nombre. Et il commence à s'impatienter. Et tout le monde se serre pour rentrer en premier. Et nous étions, nous, relativement proches de la grille. Enfin, on avait été là toute l'après-midi, dans les premiers. Donc, dans tous les cas, voilà, on serait super bien placés. Enfin, c'était gagné d'avance, quoi. Et alors, les vigiles ouvrent plusieurs portes, à la fois, et voilà, ils contrôlent les blousons, les sacs. Et c'est là que la première personne qui entre, elle se met à courir. Moi, je suis serrée comme une sardine, voilà, mon père, il se fait un peu embarquer dans la foule devant moi, et il se retourne après avoir vu ça, pour me prévenir que lui, il va pas courir, quoi, c'est bon. Donc moi, je lui dis, évidemment, te rends pas compte, on est dans les premiers dans tous les cas, enfin, il n'y a pas besoin de courir. Et voilà, quelques secondes après, je vois mon père, donc, qui est devant moi, passer la grille, il se fait contrôler, et moi, je suis pas encore arrivée jusqu'au vigile. Je suis serrée à plein d'autres personnes, et mon père se fait embarquer dans la foule. Donc voilà, je sais que j'ai deux trois personnes entre moi et mon père, et voilà, je vais bientôt le rejoindre une fois que je serai passée. Et c'est là que je vois mon père qui se met à courir et disparaître dans le Zénith. J'ai vraiment ce souvenir en tête de le voir, mais foncer. Et je pense que ma mâchoire, elle avait dû se décrocher. j'arrive après lui au contrôle, et je le rejoins à l'intérieur du Zénith, et j'étais complètement sonnée par ce qui venait de se passer, quoi, et par ce que venait de faire mon père. Enfin, je sais toujours pas d'ailleurs aujourd'hui pourquoi, et C'est vraiment en quelques secondes, il a changé d'avis. Il se retourne pour me dire « Non, non, mais nous, on court pas. » Moi, je lui dis « Ouais, ouais, pas de souci, on court pas. » Et deux secondes après, il se fait contrôler et il se met à courir comme tout le monde, en fait. Enfin, alors peut-être qu'il a pas eu plus le temps de réfléchir que ça. Et en fait, le fait de voir voilà, tout le monde se mettre à courir dans le zénith pour être bien placé, peut-être que lui, dans le feu de l'action, bah voilà, il a fait pareil. Et puis c'est vrai qu'on venait d'attendre une après-midi entière, en fait, pour ce moment, voilà, du placement libre. Donc allez, on joue le truc à fond et on se met à courir. Et voilà, pour être bien placé. Et voilà, ouais, je suis arrivée dans le zénith, j'ai rejoint mon père et on était au deuxième rang, juste en face du micro, vraiment pile au centre. Et voilà, enfin, quelle joie, quoi, enfin... Quelle preuve d'amour de la part de mon père. Enfin, elle est simplement là, en fait, la force de se souvenir avant même le concert lui-même, quoi. Et ouais, c'est en écrivant, en fait, en écrivant le récit que, de ces anecdotes-là, que je me suis rendu compte que la puissance de mes souvenirs, c'est pas seulement dû à des concerts vraiment qui ont été géniaux de base, mais vraiment à tout ce qui se passe autour de ces événements-là, en fait. Donc évidemment, le concert de Bryan Adams, voilà, ça a été absolument génial. Enfin, c'était une tornade d'énergie, d'émotion, de rock. Et il a chanté Here I Am de Spirit. Donc la boucle était bouclée, quoi. Enfin, par rapport à mon histoire, par rapport à ce chanteur-là. Voilà, je me souviens qu'une larme a coulé d'émotion et de bonheur parce que j'étais surprise qu'il chante cette chanson-là, en fait.
Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, just me and you. And tonight we make our dreams come true. Because you're dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I'm a dream.
J'ai pas le souvenir d'avoir eu de tristesse quant à l'absence de ma mère lors de cette journée. Comme quoi, parfois, la force de l'amour et du bonheur, elle peut surpasser la douleur. J'ai l'impression que tout était si intense, si sensationnel, si énorme, voilà, de voir mon idole, Bryan Adams... un rocker canadien qui est vraiment peu souvent en France, de le voir avec mon père, qui est fan de hard rock. Enfin, c'était parfait, quoi. Enfin, parfait et unique comme moment. Et j'ai vraiment le souvenir de cette journée, que ce soit que du bonheur, en fait. Malgré tout ce qu'on avait pu vivre avant et tout ce qu'on avait pu vivre comme obstacle et comme douleur, voilà, c'était encore une douleur assez vive. Et je crois que c'était vraiment un moment où on se disait, bah, la vie, elle est là, elle continue, et on peut aussi être heureux et continuer à être heureux. Après ce concert de Brian, mon père, il a plus eu besoin de m'accompagner à des concerts par la suite. Parce que j'ai volé de mes propres ailes, j'étais suffisamment grandie, j'étais suffisamment prête. Et en 2022, 10 ans plus tard exactement, je suis retournée voir Brian Adams. J'avais loupé chacune de ses autres venues en France depuis 2012. Soit parce que je me rendais compte trop tard qu'il revenait et c'était complet, ou en fait j'étais pas disponible. Et voilà, je l'ai revu en 2022, et en fait j'y suis allée avec le deuxième homme de ma vie, le nouvel homme de ma vie, mon homme. Voilà, c'est la fin de cet épisode introductif au format anecdote de spectatrice. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je verrai bien au montage. J'espère que ça le fait, que ça le fait de parler comme ça librement, sans vraiment tout à fait lire ce que j'ai écrit, de juste suivre mon fil et de suivre ce que j'ai envie de partager dans cet épisode. Même si j'ai beaucoup d'hésitations et de doutes à le sortir, parce que c'est des anecdotes hyper intime, alors je me demande des fois si c'est vraiment utile de le sortir, ou est-ce que vraiment, peut-être que je peux garder juste ça pour moi. Voilà, je sais pas ce que ça peut vous apporter, vous, d'entendre ces histoires-là. J'espère que ça vous remémore des souvenirs à vous, que ça vous divertit, juste, d'écouter ce type d'histoire. En tout cas, ça va ressembler à ça, je pense, les prochains épisodes de Anecdotes de spectatrices. Ce qui va être plus intéressant encore pour vous, je pense, ce sont les anecdotes de régisseuses, puisque je vous le disais dans l'intro, que je travaille dans le milieu du spectacle. Et en fait, je voudrais vraiment séparer anecdotes de spectatrices et anecdotes de régisseuses, parce que les spectacles que je vois dans le cadre de mon travail, c'est des moments qui sont très différents des spectacles que je vois, moi, personnellement. Parce que dans le cadre du travail, ce sont des spectacles que j'ai pas forcément choisi de voir, parce que je travaille dessus au fil des programmations des théâtres dans lesquels je travaille. Donc en fait, c'est pas moi qui choisis de travailler sur tel ou tel spectacle. Donc des fois, je découvre totalement des artistes, des pièces. Et voilà, je différencie vraiment le moment où c'est moi qui paie ma place. Tel artiste, j'ai réservé telle soirée pour aller le voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, je pense que ça va être très sympa pour vous d'entendre quelques coulisses. Moi, j'ai déjà commencé à écrire des textes sur des petits moments que j'aimerais vous faire partager. Donc j'ai vraiment hâte de les enregistrer. Mais pour le moment, je reste vraiment dans le désir de sortir que un, allez, peut-être deux épisodes par mois. Ça va peut-être être exceptionnel, deux épisodes par mois, parce que sinon ça me prend beaucoup trop de temps dans ma tête et dans ma vie de sortir ces épisodes, de les monter, de faire toute la communication sur Instagram, d'essayer de faire des petites vidéos qui donnent envie avec un extrait des épisodes pour que ça donne envie d'écouter et de faire connaître le podcast. Ça prend énormément de temps. Donc je préfère en sortir qu'un par mois et que ça me prenne pas trop de place dans ma tête, parce que ça m'en prend déjà beaucoup. Alors que personne me demande de sortir des épisodes, c'est juste moi avec moi-même, mais je me fous une pression qui est bien présente quand même dans l'envie d'être régulière de proposer quelque chose de nouveau tous les mois. Ce format anecdote de spectatrice, ça me sert aussi à vous faire écouter des extraits de mes enregistrements audio que j'ai pu faire. Vous avez dû en entendre là tout le long de l'épisode. Et moi, ça me fait hyper plaisir de vous mettre des extraits de chansons, live ou non, et voilà, de vous faire découvrir peut-être des artistes ou des chansons. J'espère que cet épisode t'aura plu. Tu peux venir me dire ce que t'en as pensé sur mon Instagram, La Joie de Camille. C'est vraiment le lieu pour communiquer avec moi. Ça me fera super plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Si tu souhaites me dire ce que t'en penses, est-ce que ça t'apporte quelque chose ou pas d'entendre ça? Est-ce que je continue? Est-ce que c'est nul? N'hésite pas à me dire si ça t'a plu ou non, comment t'as découvert le podcast. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a uniquement Instagram qui permet de faire de la pub, et ça prend beaucoup de temps. N'hésite pas à en parler autour de toi, si ça te plaît, si tu penses que ça peut plaire à quelqu'un, d'entendre parler de spectacles, de chansons françaises, d'artistes, d'anecdotes, de témoignages, voilà. Écoute, je te laisse et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!
Que je vais te laisser faire, tu m'as pas gardé. C'est pas parce qu'on m'a mis des fers que je vais changer. Oh, mais si tu veux tenter ta chance, alors entre dans la danse. Hey, j'en ai plein le dos, j'ai vraiment la rage, t'as vraiment. Dégage. Il est grand temps de renoncer, mon gros. J'en ai plein le
Ne t'en fais pas, ce n'est qu'en jeu, mais à ce jeu-là.